de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, auditeurs dans le monde entier. Comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Et je vous accompagne pendant 60 minutes pour l'édition de vendredi 21 février 2020. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes et nous commençons par le journal, suivi de commentaires, l'histoire aujourd'hui et Indonésie. L'herbe suivante, nous allons également présenter magazine culturel, l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter magazine musical. Voilà ton programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez maintenant la voix de l'Indonésie avec le journal. Je vais vous présenter quelques événements importants, entre autres, le président souhaite que le classement indonésien de la BNDH figure dans le top 40 mondiaux. 8 barrages de programmes stratégiques nationaux devraient être achevés en 2020. La Chine expulse 3 journalistes étrangers en raison de la critique de la manipulation du coronavirus. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno, a assisté à la réunion pour discuter de l'épidémie de corona. Promouvoir activement le tourisme indonésien en France. La Russie demande à la Turquie de cesser d'aider les terroristes en Syrie et la cathédrale Notre-Dame de Paris sera rouverte au public. Chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Vous êtes avec moi, Audrey. Le président souhaite que le classement indonésien de la BNDH figure dans le top 40 mondiaux. Le président indonésien Joko Widodo veut une cote de facilité de faire des affaires EODB en Indonésie dans le top 40 mondial ou une augmentation par rapport à la position actuelle de 73. Le président Joko Widodo a rappelé dans l'ouverture de la réunion de coordination des investissements 2020 à Jakarta jeudi que la facilité de faire des affaires indonésiennes dans l'ASEAN était sous de Singapour, de la Malaisie, du Vietnam, du Brunei et de la Thaïlande. Il a donné un exemple qui doit être abordé, par exemple la facilité de démarrer une entreprise à partir de 11 procédures qui doivent être passées ou prennent 10 jours à seulement 5 procédures et ne prend que 3 jours. Le président a également demandé au ministre des Finances qu'un fonds d'allocation spéciale soit attribué aux services intégrés à guichet unique dans les régions afin qu'ils puissent être utilisés à des fins de socialisation, afin d'améliorer la gestion des systèmes internes, afin d'accélérer le service à la communauté. 8 barrages de programmes stratégiques nationaux devraient être achevés en 2020. Le ministère des Travaux publics et du Logement public PUPR vise l'achèvement de 8 barrages dans plusieurs zones nationales de stockage des aliments cette année. Le ministre de la PUPR, Basuki Hadi Mulyono, a déclaré jeudi dans un communiqué que le potentiel hydrique en Indonésie était assez élevé, à 2,7 billions de mètres cubes par an. Selon Basuki Hadi Mulyono, de ce volume, l'eau qui peut être utilisée est de 691 milliards de mètres cubes par an et a été utilisée 222 milliards de mètres cubes par an à divers fins, tels que les ménages, le bétail, la pêche et l'irrigation. Les 8 barrages sont situés dans le sud de Sulawesi, le sud-est de Sulawesi, le sud de Kalimantan, Lampung, l'ouest de Java et l'est de Java. La Chine expulse 3 journalistes étrangers en raison de la critique de la manipulation du coronavirus. La République populaire de Chine a annoncé qu'elle retirait leur carte de presse de 3 journalistes du Wall Street Journal, WSJ, après avoir publié des avis critiquant la manipulation du coronavirus par du président Xi Jinping jeudi 20 février. Lors d'une conférence de presse à Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Kang Suan, a déclaré que l'expulsion des 3 journalistes étrangers a été effectuée en raison d'un article d'opinion du WSJ intitulé « La Chine est le véritable homme malade de l'Asie » publié le 3 février. Kang a déclaré que le rédacteur du Wall Street Journal a publié un titre d'article raciste et discriminatoire, provoquant la colère et la condamnation entre la communauté chinoise et la communauté internationale. La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno a assisté à la réunion pour discuter de l'épidémie de corona. La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi a assisté à la réunion spéciale du Conseil de coordination de l'ASEAN avec la Chine à Vientiane, au Laos, jeudi 20 février, heure locale. La réunion vise à discuter de la manipulation du nouveau virus corona ou COVID-19. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN voient qu'il est important de renforcer les interventions d'urgence, les mécanismes régionaux et les capacités nationales et régionales pour répondre à l'épidémie de COVID-19. La ministre Retno Marsudi, lors de la réunion, a souligné l'importance de partager des informations sur l'évacuation des citoyens de l'ASEAN des points d'endémie dans n'importe quelle partie du monde. Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont réaffirmé leur engagement à collaborer avec l'international sur les mesures visant à réduire l'impact du virus. Vito promeut activement le tourisme indonésien en France. Le bureau français de promotion touristique Vito, en collaboration avec l'ambassade d'Indonésie à Paris et le consulat général de la République d'Indonésie à Marseille, dans le but d'augmenter le nombre de touristes français en Indonésie, a mené en février diverses activités promotionnelles, entre autres le roadshow indonésien. Le chef du bureau de promotion du tourisme de l'Indonésie à Paris, Vito France, Eka Moncaré, a déclaré mercredi à Antara, Londres, que le roadshow a eu lieu pour coïncider avec 70 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et la France. Outre le roadshow, l'atelier touristique Business to Business dans 4 villes françaises, à savoir Toulouse, Bordeaux, Paris et Lille, du 24 au 27 février. Et quand Moncaré a déclaré que Vito a collaboré avec divers secteurs pour mener des promotions en France, telles que les compagnies aériennes, les hôtels, les partenaires de voyage et les compagnies de croisière. Le 4e atelier Indonésie 2020, organisé par Vito France, vise à créer un réseau entre les agents touristiques indonésiens et les agents de voyage en France. La Russie demande à la Turquie de cesser d'aider les terroristes en Syrie. Le gouvernement russe exhorte la Turquie à cesser de soutenir et de fournir une assistance au groupe terroriste en Syrie. Jusqu'à présent, la guerre en Syrie fait toujours rage et il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Le ministère russe de la Défense, comme cité l'AFP jeudi 20 février, disant que la guerre s'est déroulée toujours en Syrie, en particulier dans les régions d'Alep et d'Idlib. Dans les deux régions, le bruit des fusils et des explosions pouvait être entendu sans fin. Au moins 900 000 personnes ont été déplacées par la guerre. La guerre en Syrie a impliqué la Russie, l'Iran et la Turquie. La Russie et l'Iran soutiennent le gouvernement du président Bachar al-Assad. La cathédrale Notre-Dame de Paris sera rouverte au public. Le sous-sol et la cour avant de la cathédrale Notre-Dame de Paris devraient ouvrir en mars 2020. Ceci après un nettoyage approfondi de la pollution après un incendie en avril 2019 qui a endommagé des parties historiques de l'église. C'est ce qu'a rapporté RFI.fr sur son site internet le jeudi, le 20 février 2020. Selon le rapport du RFI, Karen Taïb, en tant que maire adjoint de Paris en charge des monuments historiques, a indiqué que les visiteurs pourront revisiter les sites archéologiques fin mars de cette année, à condition que le site ait été correctement nettoyé et doivent être testés cliniquement afin d'éliminer les dernières particules d'étain. Une autre préoccupation due à l'incendie était la contamination par le plomb brûlé dans la tour. Cela oblige les autorités à procéder à une décontamination qui a jusqu'à présent été difficile. Plusieurs procédures ont été testées depuis août, mais jusqu'à présent, il n'était pas pleinement efficace car le plomb a un moyen de s'infiltrer dans les surfaces poreuse et difficile à éliminer. À une autre occasion, le président Macron a estimé que la période de récupération prendrait au moins 5 ans et ça nécessiterait des millions d'euros. Chers auditeurs, c'était les nouvelles. Bonsoir à tous, vous écoutez La Voix de l'Indonésie avec le commentaire d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi, Audrey. Le commentaire intitulé à l'approche de l'arrivée du président Donald Trump en Inde. La semaine prochaine, le président américain Donald Trump devrait se rendre en Inde pour assister à un événement appelé Namaste Trump ou Greetings Trump au stade de cricket. Il sera accepté par les rangs des partisans de Howdy Modi, du premier ministre indien Narendra Modi. Selon le plan, le président Donald Trump empruntera la route en face des bidonvilles. Ce qui est intéressant, c'est que le premier ministre Narendra Modi a construit un mur le long des bidonvilles qui atteignait un demi-kilomètre, de sorte que près de 2000 membres des pauvres de la région ne seraient pas vus. Au pays, la décision du premier ministre a été critiquée. Le premier ministre Modi est censé vouloir couvrir le visage original de l'Inde. Cependant, le haut fonctionnaire Bijal Patel a nié cela. Le mur qui a été construit est pour des raisons de sécurité, pas pour couvrir les bidonvilles. Tout à fait unique est également la similitude entre Narendra Modi et Trump dans le problème du mur. Le président Trump était autrefois occupé à devenir une controverse lorsqu'il construirait un parapet aux frontières américaines et mexicaines. Pour cette raison, Trump et Modi peuvent être considérés comme similaires. Mais plus que cela, l'Amérique et l'Inde sont devenus des partenaires à long terme. L'administration Trump a toujours présenté l'Inde comme l'un de ses principaux alliés dans la région Indo-Pacifique. Le US Pacific Command a changé son nom de Indo-Pacific Command, mettant l'accent sur la relation stratégique entre l'océan Indien et le Pacifique. Alors que l'Inde s'efforce de faire sentir sa présence au niveau international avec une implication croissante, la réticence de la Chine à reconnaître la reconnaissance mondiale de l'Inde a un impact négatif sur l'implication de l'Inde dans son environnement immédiat. L'Inde cherche à améliorer bon nombre de ses défis stratégiques en approfondissant ses relations avec les États-Unis. Fondamentalement, la région Asie-Pacifique est devenue un point focal pour plusieurs grands pays, en particulier l'Inde et la Chine, qui se battent pour exercer une influence dans la région Asie-Pacifique. Depuis le début de son administration, le président Trump a approché l'Inde et vice-versa. Alors que les relations américano-chinoises connaissent des hauts et des bas, l'Inde espère certainement que le soutien américain gagnera une influence mondiale pour devenir une puissance mondiale. Cette relation se rapprochera-t-elle au milieu de la polarisation des divers intérêts américains? Personne ne peut garantir que les relations américaines et indiennes continueront de durer. Jusqu'à présent, l'Amérique et l'Inde se soutiennent mutuellement, en particulier le problème du développement technologique. Et l'Inde est prête à autoriser certaines technologies en Amérique. Mais comme les idiomes politiques, il n'y a jamais d'amis et d'ennemis éternels. Seule l'égalité des intérêts mutuellement bénéfiques permettra aux alliés de continuer ensemble. Chers auditeurs, c'était le commentaire.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur. Pour la rubrique suivante, voici l'histoire d'aujourd'hui.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 21 février. Le 21 février 1965, Malcolm X a été tué. Le 21 février 1965, Malcolm X, activiste du mouvement et figure afro-américaine musulmane, a été tué à New York. Malcolm a été déclaré mort après avoir été abattu par trois hommes. Un tireur, membre de la Nation of Islam, a été arrêté. Il a affirmé devant le tribunal qu'il avait été l'un des tireurs, mais a refusé d'identifier d'autres agresseurs. Ensuite, le 21 février 1972, Luna 20 a atterri sur la Lune. Luna 20 est la deuxième mission la plus réussie des trois missions d'atterrissage de vaisseaux spatiaux sur la Lune par l'Union soviétique. Luna 20 est entrée dans l'orbite lunaire le 18 février 1972 et le 21 février 1972, Luna 20 a atterri sur la Lune dans une zone montagneuse connue sous le nom de Terra Apollonius. À son retour sur Terre le 22 février 1972, Luna 20 a réussi à ramener 30 grammes d'échantillons de sable et de roches lunaires recueillies dans une capsule scellée. Luna 20 a finalement atterri en Union soviétique le 25 février 1972. Le 21 février, Journée mondiale de la langue maternelle. La Journée mondiale de la langue maternelle est célébrée tous les 21 février pour sensibiliser à la diversité linguistique, culturelle et multilingue. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a institué la Journée mondiale de la langue maternelle le 17 novembre 1940. 99 et a été officiellement adopté lors d'une Assemblée générale des Nations Unies par une résolution publiée en 2008. Cette résolution était une proposition de Rafiqul Islam, citoyen bengalis qui vit à Vancouver, Canada. Il a écrit au secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le 9 janvier 1998 pour préserver toutes les langues du monde en danger. Il a proposé la tenue de la Journée internationale de la langue maternelle chaque 21 février en conjonction avec le mouvement de commémoration des langues au Bangladesh pour commémorer la manifestation qui a coûté la vie à Dhaka, protégeant le bengali en tant que langue nationale le 21 février 1952. La Journée mondiale de la langue maternelle a été célébrée pour la première fois le 21 février 2000. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Kata demi kata, jalin dengan indah untuk menguraikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh malunya hati ini, bila ku ingat saat kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan, hanya dirimu yang mengertikan segalanya. Oh bulan, tolonglah daku, katakan padanya ku cinta dia. Berlalu, kita saling terpaku diam, diam seribu bahasa, hilang semua kata yang terangkaikan. Oh malunya hati ini, bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh pulang hanya diri yang menyaksikan segalanya. Oh bulan, tolonglah daku, katakan padanya ku cinta dia. Saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh, oh. Oh bulan, hanya dirimu, oh bulan, yang menyaksikan segala. Katakan, tolonglah daku, katakan padanya. Katakan padanya ku cinta dia.
dan terdiam terpanggil. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Bulan tolonglah daku katakan padanya.
Vous avez écouté une chanson intitulée Louis ou Dia, chantée par Danar. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Chers amis, pour l'orbe suivante, voici Mon Indonésie. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter la rubrique Mon Indonésie, intitulée La stratégie de diversification du marché d'exportation est prête à anticiper l'impact du coronavirus. Le gouvernement indonésien prépare diverses stratégies pour anticiper la baisse des performances de la balance commerciale due à l'épidémie de coronavirus ou COVID-19. La Chine est la plus grande part de marché d'exportation non pétrolière en Indonésie. Indirectement, cela a commencé à avoir un impact sur la balance commerciale de l'Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le personnel expert chargé du développement régional du ministère de coordination des affaires économiques, Bobby Hamzar Ravinus, lors de l'ouverture de l'événement en régence de Benar Meriah Aceh, mardi 18 février. L'événement a également été assisté par le régent de Benar Meriah, Tengku Sarkawi. Comme l'a cité Business Indonesia, Bobby a déclaré que l'une des choses à préparer est d'encourager l'exportation des produits potentiels à forte compétitivité sur le marché mondial. En outre, le gouvernement fait également la diversification des marchés d'exportation en dehors des principaux pays de destination tels que le Moyen-Orient et il optimise la production intérieure en encourageant l'augmentation des performances à l'exportation de produits provenant d'autres secteurs, comme le secteur agricole. Selon Bobby, en tant que pays agraire, le rôle du secteur agricole dans la croissance économique nationale est en effet de plus en plus important et stratégique. De plus, Bobby Hamzar Ravinus a déclaré que l'amélioration des performances à l'exportation du secteur agricole est due à une augmentation des exportations du sous-secteur horticole, notamment des fruits, en particulier des fruits annuels. La banane est l'un des produits fruitiers annuels qui a de bonnes perspectives car elle a une valeur économique élevée et un potentiel de marché qui est encore largement ouvert. Selon les données de TradeMap International Trade Statistics, l'Indonésie a exporté tout au long de 2018 30 000 tonnes de bananes, soit plus de 14 000 dollars américains vers tout le monde. La plus grande exportation de bananes est vers la Chine. Pour accélérer le programme d'augmentation des exportations de produits agricoles, le ministère de coordination de l'économie encourage le développement de horticulture orientée vers l'exportation comme l'un des programmes prioritaires à travers des partenariats entre le gouvernement central, les gouvernements régionaux, le secteur privé et les agriculteurs. Ce programme a été mené avec succès dans le développement de produits d'exportation de bananes et ananas qui ont été mis en œuvre par le gouvernement régional de Tanggamus dans la province de Lampung. Ce succès est une référence pour la mise en œuvre dans d'autres domaines. Chers amis, c'était la rubrique Bon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Akan cintaku masih bersamanya.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure la deuxième chanson intitulée « Je suis désolé » ou « Maafkan » chantée par Conny Constantia. Pour l'orbite suivante, comme d'habitude, nous allons vous présenter magazine culturel.
Chers amis, bonsoir. Voici le magazine culturel en produisant La Cascade Bajing à Pekalongan. Pekalongan est une ville en province Java centrale, située sur la côte nord qui relie les villes Jakarta, Semarang et Surabaya. Et est bordé directement par la mer de Java. Pekalongan est célèbre comme ville de batik et tourisme de batik. Pekalongan possède également de belles attractions naturelles. L'un d'entre eux est la cascade Bajing. La cascade Bajing est située dans le village Tlogopakis, district Petung Kriyono, région Pekalongan. De la ville Pekalongan, il faut environ 3 heures pour se diriger vers le sud jusqu'au mont Rogo Jembangan. Le trajet jusqu'à l'emplacement de la cascade est assez beau, mais on doit être vigilant et prudent car la route est sinueuse et pleine de virages serrés. Après avoir pris la route sinueuse dans la partie rurale de la zone forestière de Petung Kriyono, les indications pour l'emplacement de la cascade Bajing seront visibles. En arrivant au parking de la cascade Bajing, votre voyage continue toujours en marchant environ 300 mètres jusqu'à la cascade. « Le tourisme de la cascade Bajing est une attraction touristique excellente de Pekalongan. Le paysage naturel autour de la cascade Bajing, qui a un niveau d'eau jusqu'à 75 mètres, est vraiment extraordinaire et capable d'étonner tous ceux qui y viennent. La cascade Bajing est située dans une forêt ombragée juste au pied du mont Rogo Jembangan ou dans la région montagneuse Petong Kriono, connue depuis longtemps pour sa beauté. Libérée des résultats de recherche du gouvernement dans la région Pekalongan, Petong Kriono est la seule plus belle région de la région Pekalongan avec un niveau de protection des forêts ombragées à 100%, de sorte que le soleil a du mal à pénétrer le sol plus de 2 heures. En plus de profiter de la beauté de la cascade, les visiteurs peuvent également profiter de l'objet de glissade d'eau qui glisse de la hauteur de la cascade avec des pneus dans la voiture avec un équipement de sécurité. De plus, il y a une zone de terrain de camping. Dans la région de la cascade, l'autorité régionale a également été équipée de salles de rangage, de salles de bain, de kiosques, de salles de prière, de boutiques, de souvenirs et de stands de nourriture pour manger et boire. Chers amis, c'est le magazine culturel.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez toujours The Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. Ce soir avec moi Audrey et on se rencontre encore dans le programme L'Indonésie en couleur. Ce soir, vous allez écouter une start-up indonésienne développe un taxi volant avec la technologie des drones. Une entreprise engagée dans la technologie, en particulier la technologie des drones appelée Frog, a développé un taxi volant basé sur des drones. Les grenouilles sont situées à Yogyakarta, précisément à Bangunarjo, Sewon, Bantul. Ce drone de taxi pourra transporter un maximum de 2 personnes avec une limite de charge de 200 kg. Peut parcourir des distances allant jusqu'à 5 km avec une seule charge de batterie et peut voler à une hauteur de 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer pendant environ une heure. Le taxi volant de Frog sera exposé par Hannover Messe du 20 au 24 avril 2020 en Allemagne. Hannover Messe est le plus grand événement international annuel dans le domaine de la technologie industrielle. L'événement réunira plus de 6500 participants représentant 73 pays, 225 000 visiteurs internationaux de 91 pays et générant environ 5,6 millions de contacts commerciaux. L'équipe Frog est composée de gens formidables expérimentés dans l'industrie aéronautique. Avant de commencer le développement de ce drone taxi, l'équipe de Frog avait mené des recherches pendant près de 2 ans et dépensé des fonds atteignant 1 milliard de roupies. En ciblant la part de marché des services de taxi aérien, les drones de taxi pourront plus tard être utilisés pour transporter du fret ou des marchandises, les besoins militaires ainsi que divers intérêts d'urgence tels que les premiers secours dans les zones qui sont dans les besoins et difficiles d'accès par voie terrestre. L'un des avantages de ce drone de taxi est que les utilisateurs peuvent se rendre plus rapidement à destination car ils empruntent la voie aérienne pour éviter les embouteillages. Ce taxi aérien est également respectueux de l'environnement et ne laisse aucune trace de pollution car l'énergie utilisée est de l'électricité provenant des batteries qui peut être rechargée. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur sur une start-up indonésienne développe un taxi volant avec la technologie des drones. On se rencontrera demain avec le sujet différent. Merci beaucoup et au revoir.
Pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Berjuta warna pelangi di dalam hati. asing menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi.
Chers amis de quatre coins du monde, vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Mon soleil » ou « Matahariku » chantée par Agnes Monica. Et maintenant, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter magazine musical.
Sœur Jolitaire, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Oudiri. Ce soir, dans la rubrique « Magazine musical », je vais vous présenter une chanson traditionnelle de Flores, Nusa Tenggara Est, Tebo Leo. Cette chanson est une chanson moderne arrangée par Operita Tekking Group, avec la touche de leurs instruments de musique traditionnelle. La nature des gens de Flores qui sont toujours gais, amicaux et francs est rayonnée par cette chanson. Rita Tekking Group est un lieu pour les jeunes de Flores afin qu'ils puissent conserver leurs instruments de musique traditionnelle. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Tebo Leo chantée par le groupe Rita Tekking. Bonne écoute.
Te voleo, leo, te voleo. Voice of Indonesia.
Iya, aku tak tahu mana alur, mana awal. Bali dibuat lembuat nasib. Aw pada Bali awak patu nadea. Lah kami malor benda sapi binata binti malinu oe enda lehia tunda pae mana alor benda.
Chers auditrices et auditeurs dans le monde entier, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être fidèles avec nous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.